À tout à l'heure. C'est la bande originale, bienvenue avec l'État, Gadon Moudadi, Morgane Gadignan, Alexis Le Rossignol, Tanguy Passureau et le retour de Daniel Brun.
Vous m'avez manqué les amis.
Et tout à l'heure, nous allons recevoir l'excellente Lina Koudry et la réalisatrice Aurélia Georges pour La Place d'une Autre dans cette bande originale. Alors comment ça va d'abord Daniel?
J'ai mal au doigt. Je sais, c'est
alors
étrange.
Le problème, c'est que t'en as 20. Alors, quel doigt des mains, pieds, droite,
l'index
gauche.
De la main droite.
Ok, voilà. Juste celui-là.
Très étrange.
Écoute, tu peux faire très avec étrange. Le reste.
Il m'en reste. Hein.
Ah non, c'est le doigt iti.
Oui, le doigt iti.
Désigne.
Comment t'as pu écrire ta chronique alors?
J'ai du personnel.
Il a dicté. Il a dicté.
J'ai du personnel, monsieur.
Ça lui a jamais posé problème.
Il a des auteurs et du personnel. Voilà, tu vois, il a des scribes et un dictaphone. C'est un truc de ouf. Malade. La Place d'une Autre. Superbe film. C'est un grand, du grand cinéma, comme l'on dit. Signé Aurélia Georges avec l'excellente Lina Koudry. On va en parler avec elle. De ce film dans quelques instants. Et évidemment, un blind test autour de La Place d'un Autre.
Leïla.
Alexis.
Leïla.
Non, Leïla.
C'est Bruel.
Ouais.
Oh. Allez. On se fait. Allez. 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 Allez.
Violon.
Solo.
Allez.
Allez.
Allez. Allez. Allez.
Encore deux fois, c'était gênant.
Allez, vas-y.
Oui, d'un côté, je pousse.
Quand on aura.
Énorme!
C'est la première blague du lundi!
Énorme succès quand même!
Carton!
Allez! Non!
Je m'en lasse pas!
Ça me met si mal à l'aise!
Il dit quoi exactement?
Allez! Il dit.
Allez!
Ah, allez, d'accord! J'avais pas entendu!
Toujours avec La Place pour faire un clin d'œil à La Place d'une Autre!
Ah oui, Morgane!
Merci!
Morgane!
Daniel.
Oui, Morgane!
Fais-moi une place dans tes. Dans tes urgences.
Oui, alors c'est vrai que là en période de Covid,
fais-moi une place dans tes urgences.
C'est vrai que là c'est pas. Ouais, ça fait un petit côté.
Un message. Alexis.
Morgan.
Oui, Alexis. Cabrel.
Non.
Leïla. Leïla. Bauer.
Oui.
Ah oui.
Et Zazie.
Oh, il y avait un clip incroyable. Ils étaient dans des plexiglas.
Je croyais que je l'avais.
Qu'est-ce qu'elle est bien, ça.
Ouais.
Allez.
Pour ce que je suis. Allez.
Ah. On va la mettre tout au long de l'émission.
Bien sûr.
Oh ben, c'est, faut pas me provoquer.
Le
qui chante
gag.
Ah oui.
Morgan, c'est américain.
Non.
In the desert.
Ouais, okay. On dirait que c'est ça.
Bah, c'est bien ça, non?
Non.
Ça commence pareil, hein?
Bah oui. Qui chante ça, là?
Leïla?
Oui.
Michael?
Mais oui!
Quoi?
Ah, tu dis.
Mais
tu
Michael, quoi?
Michael,
quoi?
Michael
Douglas.
Il y a Michael, il y a Freddy, quoi.
C'est ça. C'est Michael Jackson avec A Place with No Name, donc la référence est avec A Horse with No Name.
Désolée Morgane,
je suis scandalisée.
Ouais, je sais. Tu mettras un bachung la prochaine fois.
Écoute.
Voilà. Il a la voix des Galay Chéri un peu sur cette chanson. Putain, j'ai jamais su faire ça, je suis en vieux là.
Allez,
c'est quoi ça?
C'est ça.
Bah oui, mais on est dans la radio. Donc l'intro, oui, c'est totalement Horse with No Name d'America. Ça, on est d'accord. Et c'est Michael Jackson qui fait ce clin d'œil en faisant un titre qui s'appelle A Place with No Name. Qui chante ça?
Morgan,
oui.
And the Queen.
Non, non.
Leïla.
Oui.
Clara.
Morgan, oui.
Elle est Morgan.
Elle est tellement intime avec tous ces artistes.
Ah, oui.
De la musique aux côtés de Juliette Armanet d'Angèle. Il y a eu un post très sympa d'ailleurs d'Angèle où elle a balancé les photos de Feu Chatterton, d'Angèle, de Juliette Armanet et de Clara Luciani en disant trop fière d'être au milieu de tout le monde parce qu'on les oppose bêtement. dans le monde de la critique et sur les réseaux sociaux, et je trouvais ça très
Angèle qui sera
élégant.
Mercredi.
C'est
ouais.
pas vrai.
Mais si.
Il faut qu'on se prépare.
Elle va chanter ou pas
Peut-être bien avec toi.
Ah, on
en duo.
Qui chante ça?
Hugo Frey.
Non.
Leïla. Leïla. Cabrel.
Oui. Suis les gens. Pour que je
prenne ma place dans le trafic. Allez.
Allez. Pour que je prenne ma place dans le trafic. C'est mon moment préféré.
Patrick Cabrel.
Prenne ma place dans le trafic. Pour que je
prenne ma place dans le trafic. Ceci dit, écoute bien, ça fonctionne.
Allez. Pour que je prenne ma place dans le trafic.
Allez, attention.
Quel mixeur.
Allez.
Je prenne ma place
dans ou t'es DJ ou tu l'es pas. Il y a un moment
ça,
tu
vois. T'as ça dans le sang ou pas?
Bah tu l'as pas. Pour l'instant,
bon, j'ai combien moi?
Toi t'as rien. Morgane a un point. Leïla en a cinq.
Ouais, wow. C'est déjà gagné là.
Non. Je
alors si personne,
match nul, on peut faire.
Non parce que le Super Banco est à 6 points.
Ah bon.
C'est toujours un point de plus. Leïla.
Oui.
Là c'est bon.
Non.
Daniel.
Oui.
Coldplay.
Oui.
J'adore en plus. Je vais goûter.
Coldplay avec In My Place qui va extrêmement bien avec la place d'une autre victoire de Daniel Morin. Et merci d'accueillir nos invités. Aurélia. Non, je pense que c'est l'autre bouton, Aurélia.
Ah,
ouais.
C'est
Morgane des sourdes.
Aurélia, Georges et Lina Koudry.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue mesdames, merci d'être présentes à ce micro. Bonjour Lina, c'est la première fois que vous venez ici.
Oui.
Comme vous d'ailleurs Aurélia.
Oui.
À baptême, parfait, parfait. Et
bon courage,
Daniel Morin aussi.
Okay. Je suis là, en cas de SOS, c'est moi qui regarde.
Non mais attends,
y a Daniel à côté, pardon.
Ah oui, d'accord, voilà. Ça peut faire peur. Oui. Alors n'ayez pas peur, il a un bracelet électronique.
Si, ayez peur.
Il a un bracelet électronique, il ne peut rien faire. Voilà. Troisième long métrage signé Aurélia Georges. Déjà félicitations pour ce superbe film qui est une grande fresque. Ce que j'ai appelé en début d'émission du grand cinéma. À voir sur un grand écran, c'est-à-dire avec des lumières incroyables, des décors de dingue, des couleurs folles, parce que c'est vrai que faire un film qui fait référence au début du XXe siècle, donc pas beaucoup de lumière électrique, on va dire, dans les maisons, et faire ressortir autant de couleurs avec le soleil.
De belles couleurs, pas des couleurs folles, on a l'impression que devenir épileptique.
Non, il y a quand même de belles couleurs, y compris en intérieur, mais aussi de l'automne, de la forêt vosgienne qui fait extrêmement peur au début au moment de la guerre, et puis après on est du côté de Nancy, si je ne me trompe, avec ces ocres, ces oranges, c'est extrêmement joli, mais surtout il y a l'histoire. Donc La Place d'une Autre, c'est un roman à la base, ça peut faire penser au retour de Martin Guerre si on fait un peu rapidement un raccourci, oui, puisqu'on est dans une période de guerre, on est dans une simulation, ou une usurpation d'identité.
Exactement. Génial, prendre la place de quelqu'un d'autre.
C'est ça.
On adore.
Tout est dans le titre, même d'ailleurs dans le jeu de la typo en ouverture sur le titre où on se dit non, il s'est passé un truc là. J'ai une allusion où il y a juste un petit A qui a changé et pourtant on se dit non. Et c'est ça, et tout est là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite différence, mais on se fait avoir. Pour résumer ce film en quelques lignes, Nelly, interprétée justement par Lina en ouverture du film, par Lina Koudry, est une fille qui n'a pas de chance, qui a un sentiment d'injustice dès le début, qui est prête à tout pour s'en sortir, même à subir, mais qui est extrêmement généreuse, qui s'engage dans la Croix-Rouge pour aider les autres en période de guerre. Et justement, à propos d'aider les autres, elle va, dans le cadre de son travail d'infirmière, accueillir une fille interprétée par Maude Wheeler, totalement perdue, qui
vient se réfugier. En fait, dans une sorte d'habitation où il y a l'armée, il y a des militaires,
docteur,
et des blessés.
Mm-hmm.
Et elle est là, sur le chemin, et elle est recueillie à cet endroit-là.
Et cette jeune femme va recevoir des éclats d'obus et est en train de perdre la vie. Et d'un coup, Une idée traverse l'esprit de Nelly. Pourquoi ne pas devenir Rose Juliette? Quel nom? Rose Juliette en prenant une lettre, en prenant ses vêtements brodés et en disant, en se recommandant auprès de Sabine, enfin du personnage joué par Sabine Azéma, pour démarrer une nouvelle vie. Et de là s'ensuit presque un thriller d'ailleurs. Ce film, c'est une fresque historique pour vous? C'est une tension presque policière? C'est aussi un drame social?
Pour moi, c'est en effet un mélange, peut-être pas une fresque historique, mais disons un film d'époque qui s'appuie sur la guerre de 14, parce que c'est une période où tout pouvait arriver, où les chemins se croisaient, des chemins qui n'étaient pas destinés à se croiser, et puis des ouvertures tout d'un coup. Ouais. C'est ce que raconte le début du film. Et il y a une ouverture, je crois, aussi, pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité qui se met en place et qui permet justement qu'on ouvre des portes à l'inconnu.
Oui, il y a l'entraide.
Il y a l'entraide.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le moteur de Nelly, c'est-à-dire qu'elle, même quand on lui dit on quitte la forêt, on s'en va, non, elle continue de chercher pour voir s'il n'y a pas des blessés, si elle peut pas faire quelque chose. Elle est, elle est dans la dévotion.
C'est ça. Et par la suite, le film propose, on peut dire, une sorte de drame social, mais c'est aussi beaucoup un film de sentiments et avec des petits passages de suspense qui nous tirent un peu vers le thriller par moment, disons que...
Carrément.
Et ce puis mélange...
Et une fin que l'on ne va pas dévoiler aujourd'hui, qui est totalement dingue.
Demain, on la dévoile demain.
Franchement, profitez-en.
Hein. On la dévoile au cinéma, donc allez voir le film. Lina Koudry, votre personnage est justement extrêmement ambigu. Comment on aborde un rôle comme ça, où on est à la fois gentil, dévoué, on sauve des vies et puis on est quand même une voleuse de vie.
Non, justement, ce qui était intéressant, c'est que c'est pas une voleuse de vie parce que initialement, elle pense bien faire. Enfin, elle pense pas faire de mal à qui que ce soit.
Elle n'a tué, non, elle a tué personne, mais elle usurpe une identité. Ça, elle le sait.
Elle usurpe une identité à l'époque où on n'avait pas de papier d'identité, où c'était encore flou. Et il a fallu, c'était pas facile à jouer effectivement parce qu'il fallait toujours doser, savoir à quel endroit on en était dans le film, est-ce que là c'était trop, pas assez. Et dans ces cas-là, on se fie entièrement au regard de la réalisatrice, parce que toute seule, j'y serais pas arrivée, je pense.
Parce qu'on tourne pas dans l'ordre, c'est ça qu'on...
On tourne pas
aussi,
dans l'ordre.
Ça rend
l'interprétation. Et c'est vraiment des paliers à chaque fois de où elle en est dans l'histoire et à quel point c'est dangereux pour elle ou à quel point c'est... Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ça a toujours été sincère pour moi. Et que c'était vraiment une nécessité vitale pour Nelly de s'en sortir. Et c'est une histoire hyper moderne parce que transposée à aujourd'hui, à notre époque, ça marche aussi. Donc j'essaie de me raccrocher.
Là où ça marcherait moins, c'est qu'en effet, avec les pièces d'identité, les réseaux sociaux,
exactement,
les photos, les mails, les compagnies...
Oui.
Elle se serait plus...
De ce point de vue-là, oui.
Plus rapidement fait découvrir, démasquer.
Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que, oui, évidemment, on m'aurait demandé ma carte d'identité et puis voilà.
Et le film est terminé, voilà.
Ça s'appelle un très court métrage.
C'est un film sur l'injustice de là où on est, en fait, puisque ce personnage de Nelly, c'est une femme, en effet, qui se décrit comme brave, courageuse, qui aime lire, qui a un rapport à la littérature, et on comprendra dans le film d'où il lui vient et en quoi il y a vraiment une dimension affective là-dedans, qui aurait pu naître à un autre endroit et qui n'aurait pas eu ce destin-là, en fait.
Et pourquoi on est prisonnière ou prisonnier de la vie, du destin,
de
tout tracé, sans avoir aucune chance de s'en sortir? En tout cas, c'est une réussite et on est ravis de vous accueillir, mais Lina aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de vos différentes interprétations et on est ravis que vous soyez dans cette bande originale.
Merci.
Lina Koudry, Aurélia Georges, pour ce
film. On était à ça de dire du mal, heureusement que vous êtes venus.
J'ai bien fait.
Oui, la place d'une autre, c'est au cinéma ce mercredi. On est ravis que vous soyez à toutes deux, mais c'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Merci Morgane Galigne.
Bisous.
Elle est méchante.
Une teigne.
Oh là là, Aurélia Georges, Lina Koudry, je vous aime pas. Vous venez aujourd'hui nous parler du film La place d'une autre. Et autant c'est pas toujours le cas, mais bon, autant là tout est dans le titre. Ce film, il pose une question morale importante. Est-ce que la volonté de changer son destin excuse tous les actes de piraterie, d'usurpation et de mensonge? Eh bien, oui, bien sûr, complètement. Moi qui étais promise à une vie misérable d'auteur en agence publicité, j'ai dévié mon destin en devenant auteur pour la radio publique. Alors, j'ai dévié dans le mauvais sens. naissance, certes, mais à partir du moment où t'es pas le capitaine du Titanic, c'est pas très grave. Le naufrage reste personnel. Mais j'ai dévié et j'ai menti pour y arriver il y a pas plus tard que 10 secondes quand je vous ai dit que je vous aimais pas, alors que j'ai aimé le film, que j'aime Lina Koudry parce que Papicha et parce que. Non mais regardez-la Pardon, mais je veux pas ne pas l'aimer, elle a un visage si doux. Franchement, moi, si j'aime pas Lina Koudry, je deviens tout de suite en direct Ursula de la Petite Sirène, quoi. Lina, elle a un visage qui me donne envie de boire de l'eau. Donc je peux pas ne pas l'aimer.
Et ça, c'est rare.
Et je la connais bien.
Il n'y a pas beaucoup de visages qui donnent cette envie chez moi.
C'est souvent le contraire. Et j'aime Aurélia Georges pour avoir mis Sabine Azéma dans son film. Qui pourrait ne pas aimer la maman de Tanguy? Ouais. Tanguy, le film d'Étienne Châtillier, hein, pas la maman de Tanguy Pastureau. Je connais pas la maman de Pastureau. Que l'on embrasse. Si je devais la faire deviner au Time's Up, je sais pas, j'imagine que je dirais bretonne de droite. Et puis on me dit. Et peut-être qu'on me répondrait, ah non, la deuxième manche, j'ai un seul mot pour faire deviner. Après, je sais plus. C'est en général le moment de la soirée où je me demande ce que je fous là. 31 ans à jouer au Time's Up le samedi soir.
Et à tricher au Time's Up.
Ouais, c'est quand même que t'as loupé un virage, quoi. Ah, ouais. Pas mal pour faire deviner Grace Kelly, ça. Tout ça pour dire qu'il faut pas hésiter à s'arranger un tout petit peu avec la réalité. Ouais. On le fait tous pour que nos quotidiens soient un peu plus jolis. Ouais. Ne serait-ce que quand on rigole aux chroniques les uns des autres. Oui, c'est des petits mensonges, mais ça fait de mal à personne, tu vois. Quand je dis bonjour à Daniel, vous croyez véritablement que j'ai envie à chaque fois qu'il passe un bonjour? Bah non, parfois il m'énerve. J'ai envie qu'il s'en mêle dans ses propres jambes et qu'il chute. Voilà, le reste du temps, je m'en fous.
Ça va mieux, ça va mieux.
Quand la serveuse te retire l'assiette en te disant alors ça vous a plu, alors qu'il reste la moitié de la bouffe dedans, c'est mieux de répondre c'est très bon, mais j'ai plus faim, parce que ça avancerait à quoi de dire que honnêtement, pour de la merde, ça ressemblait vachement à des lasagnes. Donc, dans les rares cas où une juste cause implique un acte de piraterie, la piraterie elle-même peut devenir une juste cause. Et si je cite en toute détente Pirates des Caraïbes et le secret du Black Pearl en direct, c'est bien sûr que oui, on peut tricher si c'est pour s'en sortir, ça va. Je vais pas citer Platon à chaque fois, les gens sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a encore 10 jours, je croyais que c'était une planète. Et c'est le cas de votre personnage, Lina. Franchement, le film, ça partait pas ouf. Ça sentait l'existence misérable. Puis elle devient infirmière. Alors, c'est bien infirmière, mais infirmière en 22, c'est dur. Donc, infirmière en 14, sur le front, a priori, ça finissait pas en chenillasse après chaque service. Poster deux pieds en canard, ah bah non, il y a un obus, la chenille ne redémarrera donc jamais. Alors qu'à la place, si on peut chauffer un taf de lectrice, on n'hésite pas, on prend le job. Oui. En revanche, il faut juste être sûr que la personne dont vous usurpez l'identité vous retrouve pas. Et je sais qu'il y en a actuellement un voleur de mobilettes dans les rues d'Alexandrie qui vient d'allumer France 2 après des années de pauvreté. Il arrive et il est pas content du tout. C'était fini. Faut appuyer sur le bouton.
Allez. C'est moi dont tu parles.
Non.
Et alors Morgane, on te retrouve à Bazancourt dans le 51. C'est la Marne 51, non? C'est pas là
tout
où...
à fait. C'est à côté de Reims.
Si les voitures étaient immatriculées en 51.
Les taxis.
Taxi. Ouais, pour les vignettes moins chères.
Taxi de la Marne.
Non, moi je parlais des voitures. Tu sais, pour les vignettes.
Ah, les voitures de location.
Ouais, je crois que c'était intense, c'est ça. Ouais. C'est la Marne, quoi.
C'est vendredi.
Bon.
Je suis fatiguée.
Je suis toute seule en fait.
La place d'une autre avec cette musique choisie de Gabriel Fauré dans un premier temps. Il y en a beaucoup. Il y a du Handel, il y a Sabine Azéma au piano en live. Présente dans cette... Il faudrait qu'elle fasse taratata, Sabine Azéma. Elle joue tellement bien du piano, n'est-ce pas? Avec ce personnage joué par Lina Koudry qui n'a pas sa place, même quand elle est mendiante, elle n'a pas sa place. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle ne sait pas c'est qui
ça.
Elle est.
C'est ça, elle n'a jamais sa place, elle se fait virer de partout, quoi qu'elle fasse, et ce qui fait que quand elle réussit... D'abord, c'est vrai que quand elle est infirmière, on voit qu'elle aime, la dureté, elle est... Voilà, donc c'est quelqu'un qui cherche un endroit où exister, qui cherche un endroit de reconnaissance, tout simplement, un endroit de survie aussi. Alors c'est vrai que quand elle a l'occasion d'être dans une bonne maison, confortable, avec un travail qui semble parti pour durer, elle saisit cette occasion-là, oui.
Avoir une bonne place, c'est d'ailleurs le vocabulaire qu'emploient les femmes de maison aussi à l'époque. Garder une bonne place. Et il y a dans le film quelque chose qui est très fort dans la mémoire visuelle que ça met en place dès le départ, quand votre personnage, Lina Koudry, est expulsée de cette maison où elle travaille parce qu'elle est draguée par le bourgeois qui en est à la tête, en fait. Elle s'accroche terriblement à cette porte parce qu'elle ne veut pas
pas perdre cette place. Et c'est une scène qui va revenir plus tard dans le film, en fait.
Oui, travailler avec une employée qui tombe enceinte et où elle est dans la compassion la plus totale. Il faut pas perdre sa place, ouais. Et ne compter que sur soi.
Oui, c'est ça, ne compter que sur soi, ne pas perdre sa place quand on n'en a pas, quand on ne nous a pas donné. Et tout ce qu'elle a pour elle, finalement, c'est qu'elle sait lire, elle le dit.
Et bien lire.
Et bien lire. Et ça va la sauver. Et oui, effectivement, moi j'adorais cette scène avec l'employée de maison qui pour qui elle a beaucoup de compassion et qu'elle va prévenir en plus, où elle va lui dire attention. Ces gens-là, faut pas leur faire confiance.
C'est peut-être même ce qui va un tout petit peu la trahir auprès de différentes, dans différentes situations, auprès de différents personnels de maison. C'est-à-dire qu'elle est justement tellement dans la compassion, dans le savoir soigner, que tous les doutes commencent à naître en se disant, mais est-elle infirmière ou pas? C'est ce qui pointe. Et il y a beaucoup de non-dits dans le film. Et vous avez dans votre rôle, dans votre personnage, ce visage impassible où on se demande ce qui se passe dans la tête.
Bah merci, parce que c'était le
but. C'était pas facile à jouer,
non, parce qu'évidemment on a envie de tout exprimer tellement il se passe des choses à l'intérieur et qu'il faut pas. Et il fallait pas trop en faire et pas ne rien faire non plus.
Non, mais ça nous permet de nous mettre à votre place, justement. On est toujours dans cette même déclinaison.
Sans savoir où vous êtes.
Sans savoir où vous êtes.
C'est là la performance. Parce que vous pouvez aussi avoir une grande intensité dans certaines scènes et d'autres où on sent que vous êtes complètement ailleurs.
Eh ben merci.
Il y a toute cette dose, Aurélia, dans ce film, parce que oui, il y a le suspense de dire est-ce que oui ou non, sans déflorer le sujet, est-ce que oui ou non elle va se faire avoir, est-ce que oui ou non cette usurpation va être révélée au grand jour, comment elle va s'en sortir, est-ce que oui ou non elle va réussir, parce qu'on peut jouer sur les mots aussi, la place d'une autre et une autre place dans la vie, parce que c'est ce qu'elle veut aussi, c'est avoir sa place, une autre place que ce qui lui était destiné, parce qu'il y a cette trame sociale, même si elle est en filigrane, il y a aussi comment s'en sortir.
Oui.
De la condition dans laquelle on est, ou est-ce qu'on a tous une destinée? Est-ce que nos vies sont déjà écrites?
Bah moi je pense pas que les vies soient déjà écrites. C'est vrai que pour moi ce qui est montré au début, c'est qu'il y a une grande injustice, quel que soit le personnage qu'on ne connaît pas encore au début du film. Il y a une grande injustice à être traité comme ça, à vivre tout ça, à être misérable et en effet même abusé. Et puis même la place de SDF, de clochard, on la lui conteste. Donc, toute façon, ça, quelle que soit la personne, c'est l'injustice. Et donc, on ne souhaite cette place-là à personne. On en souhaite d'autres, bien sûr. Et puis, le personnage de Nelly, ensuite, prouve... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui trouve sa vraie place. L'endroit où elle arrive à cette maison, c'est une place socialement usurpée. Mais profondément, c'est sa place. Elle est une très bonne lectrice.
Mais pardon, la véritable injustice, c'est la vraie Rose à laquelle on ne reconnaît pas son identité.
Oui.
Et là,
oui.
C'est une injustice qui va même troubler Nelly et l'infirmière, parce qu'il y a un moment de gêne.
Oui, il y a plus qu'un moment de gêne pour moi. C'est vraiment ça touche au cœur des choses, quoi.
Parce que je voulais pas trop en dire.
Bah oui, mais il y a
un suspense. Oui,
mais c'est
ça.
Pas la véritable injustice, parce que moi je trouve qu'en effet de pas reconnaître
ça la rend folle.
Ne pas reconnaître en Rose le fait que lui rendre son identité, c'est injuste. Mais c'est pas plus injuste en fait que de voir le personnage de Lina qui a toutes les qualités pour évoluer dans ce monde.
Tu dis ça parce que Lina est là.
Non,
si ça avait été Maud de l'inviter,
tu dirais.
Non,
sauf que concrètement, le personnage de Lina s'entend parfaitement bien avec celui de Sabine Azéma. Et en fait, son pouvoir, au-delà de la lecture, en réalité, le pouvoir de votre personnage, il est encore plus grand, c'est le pouvoir de l'imagination. Parce que être un bon lecteur, c'est réussir, en lisant, à susciter des images. Et je crois que c'est ce que le personnage de Sabine Azéma aime plus que tout. Et votre capacité à vous fondre dans l'existence de quelqu'un d'autre en lisant des choses sur la Suisse, le soir tard, pour au cas où on vous pose des questions, être capable. Et vous le faites merveilleusement bien face à Laurent Poitrenaud. Lui dire comment sont les montagnes suisses, cette beauté, la force du Rhin, sa puissance, son côté complètement virevoltant, c'est le pouvoir de l'imagination.
Au départ, il y a quelqu'un qui s'est fait voler son boulot.
Non, pas voler son boulot, puisqu'elle est censée ne plus être là, le Maud Villers. Elle est censée être morte, donc elle n'usurpe pas véritablement, elle prend la place d'une morte. C'est pas très grave en soi.
Et puis elle le dit, elle dit, je vous croyais morte et, et j'ai devant moi...
Oui, mais ça c'est un peu facile, hein. Je vous croyais morte.
Non, mais c'est ce qu'on a pensé la semaine dernière, Daniel.
J'étais à ta place et crois-moi ce matin, je l'ai bien mauvaise.
Personne n'a voulu usurper ton identité.
Non.
Et puis c'est un film très féminin sur la condition féminine, sur la manière dont elles étaient traitées aussi. Les actrices principales sont des femmes avec tout le respect que je dois à l'importance du rôle de Laurent Poitrenaud ou de Didier Brice, mais c'est très 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 féminin.
Oui, ça dresse une sorte de portrait finalement, comme ça, ça brosse comme ça la condition féminine du début du siècle dans différents milieux. Et bon, chacun a des places. Enfin, c'est vrai que l'assignation était bien sûr encore plus forte à l'époque qu'aujourd'hui, même si on peut tirer des parallèles. Pas mal de parallèles avec notre époque.
Carrément.
Bon, on voit quand même qu'il y avait, que c'était un cran au-dessus dans la dureté. Et ça fait réfléchir aussi. Enfin, mais je trouve que regarder l'histoire de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, c'est très important aussi.
Et on comprend mieux où on en est aujourd'hui parce que c'était comme ça il y a un siècle. Ouais.
Je crois que c'est encore, on l'a encore dans le sang, tout ça, on l'a encore dans les muscles, on l'a encore dans le cœur, dans la tête. Toutes ces duretés-là, elles se sont pas évaporées, quoi. Donc oui, c'était une manière de parler des femmes, de parler des places sociales évidemment, des transfuges sociales, transfuges de classe, tout en...
Gardant un thriller et avec ce suspense-là de savoir qu'est-ce qui va se passer et une fin de dingue dont on ne peut malheureusement parler. Autant aller le voir au cinéma, c'est à partir de mercredi, La place d'une autre avec donc Lina Koudry, la réalisation d'Aurélia Georges. Elles sont toutes les deux avec nous jusqu'à 12h30 également, Sabine Azéma, Maud Wheeler, Laurent Poitrenaud, je vais y arriver, et Didier Brice, entre autres. On a Alexis Le Rossignol avec nous tout de suite.
Et bonjour à tous.
Et bonjour à toi.
Janvier 2020, janvier 2022, ça fait 2 ans maintenant que le Covid a fait son apparition en France. On en a fait du chemin avec lui. Hein. C'est un peu une relation de couple ce qu'on vit. Pas simple comme relation d'ailleurs. Au début, on a eu un peu de mal à le cerner, on savait pas ce qu'il voulait, on connaissait pas ses origines. Parents pangolins ou chauves-souris, erreur humaine dans un labo. Les premiers mois, il a joué le type mystérieux, El Misterioso. On connaissait déjà la famille Corona, via des cousins qui avaient fait parler d'eux. Mais lui, il avait des accès de violence encore plus forts. Enfance difficile, sans doute, harcèlement à l'école des virus, peut-être. Pourtant, au début, on l'a un peu snobé, on a dit il a fait des dégâts en Chine et en Italie, mais il en fera pas chez nous. Il aime les pâtes, pas la raclette, nous faut qu'on continue à sortir, à aller au théâtre, à faire comme si de rien n'était. Le nuage de Tchernobyl s'était bien arrêté à la frontière. Pourquoi il passerait, lui ? On a quand même arrêté les papouilles en public pour pas le provoquer. On a fermé les frontières aussi, mais il est passé par la fenêtre. Il s'en est pris aux familles, aux plus faibles d'abord, puis à tout le monde. Il attendait en bas de chez nous, tel un psychopathe caché dans l'ombre. Alors on a fait la tortue, on a arrêté la bamboche, on s'est enfermé avec des stocks énormes de papier toilette. Soudain, l'expression « se faire chier » a pris tout son sens. On s'est auto-censuré, on s'est auto-autorisé à sortir. Ceux qui faisaient jamais de sport ont soudain eu envie d'aller courir. Ceux qui avaient jamais... Ceux qui avaient un chien ont fait des jaloux, on a passé nos courses au vinaigre blanc, on a fait des gâteaux pour nous occuper, des apéros Zoom et des enfants pour les plus chauds. À la télé, Cyril Lignac a cuisiné 24 heures sur 24 pendant 2 mois. Les gens tombaient par centaines et lui disaient « c'est génial, c'est croquant ». On a découvert ce qui était essentiel et non essentiel. Essentiel, les colis Amazon, pas essentiel, assister à l'enterrement d'un frère, d'une sœur ou d'une mère. Paradoxalement, on a commencé à l'apprécier parce qu'il était méchant, mais pas que. Grâce à lui, on prenait conscience que nos modes de vie n'étaient pas compatibles avec la vie, tout simplement. On le savait déjà, mais tant que ça tenait. Grâce à lui aussi, les animaux et la planète respiraient un peu mieux. C'est là qu'on a commencé à se faire des promesses à nous-mêmes. Pour plus jamais avoir affaire à lui, on s'est promis de changer, d'aller moins vite, de nous raisonner, de contempler, de moins jouer les beaux, parce qu'on a compris que tout ça, c'était notre faute. Amener la vie qu'on mène, on attire les mauvais profils. Comme on s'était mis à beaucoup lire, on a appelé ça le monde d'après. C'était beau comme formule. On a beaucoup regardé les infos aussi, c'est là qu'on s'est rendu compte que personne ne savait rien sur lui. Sauf ceux qui savaient tout, évidemment. On s'est rendu compte que certains trimaient et étaient mal considérés par la société. Du coup, on les a applaudis. 3 mois plus tard, ils ont manifesté, ils se sont fait défoncer. On a compris que, quoi qu'il en coûte, et nous sommes en guerre, ça pouvait avoir un double sens. Ensuite, on est ressorti parce que c'était l'été et que l'été, la chaleur et les terrasses, c'était moins son truc. Le temps des vacances, on a un peu oublié cette histoire de monde d'après. Par la suite, on a réussi à l'amadouer un peu en se faisant des petits trous dans les bras. Bon gré mal gré, les gens ont dit d'accord pour un premier trou. Puis d'accord pour un deuxième, c'est bien parce que c'est lui. À ceux qui voulaient pas, on a dit vous inquiétez pas, ce sera pas obligatoire. Ensuite, on leur a dit en fait, c'est un peu obligatoire quand même. Ça leur a pas plu forcément. Un temps, on l'a perdu de vue. On nous a dit qu'on pouvait boire et manger, mais toujours pas danser. Qu'il fallait rester assis pour qu'il nous voie pas, et peut-être même ramper. Au final, deux petits trous, ça suffisait pas, parce qu'il s'est adapté, le fourbe. Ceux qui l'avaient déjà eu se croyaient protégés, mais il avait laissé des affaires, et il est revenu. Alors on a fait un troisième petit trou, pour être sûr de chez sûr. Mais finalement, on n'est toujours pas sûr d'être sûr que ce soit sûr, parce qu'il était mieux, le bougre. Entre-temps, on a encore un peu oublié cette histoire de monde d'après. Et maintenant, on se dit que la meilleure solution, c'est sans doute qu'il finisse par toucher tout le monde. Comme ça, il aura eu ce qu'il voulait. Il se calmera et on finira enfin... à vivre ensemble, tout ça pour ça. Et moi, dans tout ça, je l'ai toujours pas eu. Et socialement, c'est pas facile à vivre. Avant, on avait peur des gens qui l'avaient chopé. Maintenant, on a des doutes sur ceux qui l'ont jamais eu. Ouais. Alors que non, on a juste un bon système immunitaire, non, c'est tout. Ça. D'ailleurs, je propose que les gens qui ne l'ont jamais eu procréer ensemble. Je dis pas ça par opportunisme, hein. C'est vraiment pour améliorer notre niveau moyen de défense face au futur virus. Et on sait qu'il va y en avoir. Je propose qu'au sein de l'appli Stop Covid, on ouvre un espace de rencontre ouvert uniquement à ceux qui l'ont jamais eu. Voilà.
Mec prêt à tout pour pécho.
Il faut faire vite parce que chaque jour, cette agence matrimoniale va perdre 300 000 membres. C'est le pire business model de l'histoire. Mais je pense que ça en vaut la peine, quoi. Et ces gens qui n'ont pas eu le Covid, le gouvernement s'engage à leur verser des pensions conséquentes pour qu'ils aient beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui vivront heureux dans le monde d'après. Enfin, dans le monde d'après, le monde d'après. Merci beaucoup.
Merci Alexis le Rossignol. Vous allez faire des enfants, Leïla et toi ?
C'est vrai, on pourrait, absolument. Mais j'ai des trucs à faire. Et donc, le 28 janvier, Alexis, on se retrouve sur scène. Alors, c'est Auray ou Avray ?
Auray.
Et à Saint-Agathon, le 30 janvier.
Dans le film La place d'une autre... La musique à sa place, à tel point qu'Aurélia, vous êtes en train de diriger l'orchestre et les chœurs. Comment se choisit une musique pour vous, en tout cas dans vos films? Comment vous décidez de la musique?
Bah, je réfléchis beaucoup, je réfléchis à ce qui pouvait se faire dans le contexte. Bon, là, le film commence en 1914, début 1915, donc qui composait à l'époque? Ben, les compositeurs français, la mélodie française, par exemple, Ravel, Fauré, Poulenc, c'était aussi un peu après. Donc j'ai cherché comme ça, je parle du chant, de la mélodie, donc après un rêve qu'il y a dans le film.
Vous vouliez trouver une réalité.
Oui, je voulais quelque chose de cohérent. Je voulais quelque chose de cohérent avec l'époque du film où se passe le film. Et puis après, j'ai écouté les paroles de toutes ces mélodies. Et dans Après un rêve, ça parle d'un fantasme qui dévore celle qui chante. Donc ça me paraissait coller agréablement au récit. Par ailleurs, la mélodie est magnifique. Donc bon, j'étais contente de pouvoir... Et puis là, on a entendu un petit bout du Messie de Handel, Lift Up Your Heads. Ça, c'est parce que ça se passe dans... Il y a une séquence comme ça dans un temple protestant. Et certains protestants, comme ça, chantent du Bach, du Handel, à l'église, au lieu de chanter des chants d'église qui m'intéressent moi un peu moins musicalement. Bah, parfois, ils chantent des grands compositeurs. Et comme je suis fan de Handel, j'en ai profité, hop, pour glisser un petit cœur de Handel, là, à l'air de rien.
On va parler de la musique dans quelques instants et continuer évidemment d'évoquer, de parler de la place d'une autre. La place d'une autre, Lina Koudry, quand on est actrice comme vous, brillante, c'est ce que l'on fait en permanence. On prend la place d'une autre quand on joue un rôle.
C'est vrai. Bah oui, on essaye.
et dans ces cas-là, il y a un travail particulier à faire pour se plonger dans la tête, je pense, à la peau de Malkovich. C'est-à-dire pour comment on rentre dans la peau, dans la tête d'un personnage.
Je crois que chacun, il n'y a pas un mode d'emploi, mais moi j'aime bien beaucoup me documenter. C'est ce qu'on a fait avec Aurélia, essayer de retrouver. Le maximum d'archives, de textes de l'époque, travailler sur le parler, sur la diction, qui est
sur le rythme,
ouais. Sur l'attitude, sur comment, où est-ce qu'on met ses
mains.
J'aime
bien au moment où vous dites l'attitude d'un coup, elle est beaucoup plus droite. Oui.
Ouais, bah oui, je me dis, moi je suis complètement affalée alors que mon personnage il tient droit. Où est-ce qu'on met ses mains, parce qu'on n'a pas de poche à l'époque, les femmes. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, il y a tout ce travail physique et
Ouais, ça relève presque de la chorégraphie, ce que vous racontez, c'est-à-dire se tenir droit, comment la gestuelle, comment marcher aussi, empêtré dans toutes ces couches de tissu. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
Un petit peu, ça dépend des personnages. Pour certains, c'est moins le cas, moins nécessaire. Pour celui-là, ça l'a été. C'était important.
Et tu m'as demandé aussi, au moment de la préparation, tu m'as demandé ce qu'il y avait comme musique à l'époque, oui. Ce qu'on entendait comme chanson, ouais. Et on a réfléchi à ça parce que tu me disais que tu aimais bien entendre la musique, une musique en contexte avec un film.
Se plonger dans la musique pour rentrer dans le personnage.
Dans l'époque, oui.
Bien sûr. Eh ben parfait, on va justement le lien. Mais alors,
le lien est parfait.
Il faut venir tellement souvent ici.
Dans
cette bande originale, avec ce que justement Lina Koudry écoutait dans la fin des années 90.
Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi.
À quoi correspond ce titre de Pierre Bachelet pour vous?
C'est mon père qui chantait ça à ma mère.
Ah, de chanter, carrément. Mais comme une déclaration, il déclarait,
c'est ça ? Très amoureux, donc j'ai ce souvenir, ça a été toute ma vie la chanson
de papa et maman.
De papa et maman et de leur amour. Et...
C'est joli.
Ouais.
Fin des années 90, Lina, vos parents quittent l'Algérie. Pour
bonne transition, bravo.
Pour se réfugier en France. Votre père était journaliste en Algérie, votre mère donnait des leçons de violon. C'est ça, de violon.
Oui.
Et votre père était menacé en fait en Algérie.
Exactement.
Vous nous racontez ?
Oui, je peux vous raconter. il était journaliste et en Algérie dans les années 90, il y avait une guerre civile et beaucoup d'hommes publics, d'hommes et de femmes d'ailleurs publics qui passaient à la télé, qui étaient journalistes, qui étaient chanteurs, artistes, étaient et menacés de mort et assassinés. Et il y a eu des milliers de morts. Je crois qu'il y a eu entre 100 et 200 000 morts.
Il était journaliste politique ? Il était
sur l'actualité politique, ouais. La politique, culturelle. Il avait deux émissions. Il passe à la télévision et voilà. Et
sa liberté d'expression était un danger de vie pour lui.
D'accord. En tout cas, lui, il n'hésitait pas à taper là où ça faisait mal et ça n'a pas. Enfin, il a perdu beaucoup d'amis. Il a fallu qu'on parte en 94, là où j'avais 2 ans. Et voilà, on s'en est allé. Mais
du coup, la situation arrivée en France, c'est que tout d'un coup, on ne peut pas forcément exercer le métier qu'on a exercé dans ce pays d'origine. Mmh. Votre père n'était plus journaliste en France.
Il était plus journaliste. Enfin, il a essayé quand même. Il a été là à l'ouverture de France 24. Ouais. Il a fait partie quand même d'événements. Pour gagner de l'argent, c'était un peu compliqué. Il a été commerçant. Il a ouvert des commerces, des sandwicheries, des cybercafés. Et ma mère, elle pouvait plus être professeure de violon et elle a été caissière, femme de ménage. Voilà, mon père a pas supporté ce changement trop radical parce qu'il a fait 10 ans d'études et que c'était pas possible pour lui. Donc il est retourné en Algérie et ma mère est restée là.
Vous écoutiez quant à vous Aurélia Georges. Enchaînement et tout trouvé après ce que Lina racontait sur son papa, puisque ça c'est un papa et sa fille qui chantent en l'occurrence Something Stupid. Vous avez cette musique en tête à quel propos?
Ma foi, c'était un peu de légèreté. Moi, j'étais en train de finir ou de faire mes études à l'école de cinéma. C'était assez léger par moments et rigolard. Et puis, c'était aussi assez intense. Et là, il y a comme ça quelque chose d'une danse très légère. Et en même temps, qui, je trouve, j'aime beaucoup les paroles. Enfin, cette idée que quelqu'un a le trac pour dire qu'il aime une fille. Et que tout se passe bien, mais au moment où il lui dit qu'il l'aime, ça gâche tout. Je trouvais ça vraiment très spirituel. J'ai découvert à ce moment-là cette chanson.
Et vous, on vous retrouve, Aurélia, à la Fémis, dont vous sortez diplômée en 2002. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études de cinéma en lisant un peu des éléments sur votre vie? Vous avez été lectrice de scénario, vous avez travaillé comme assistante de production. Comment tout ça s'est déclenché pour en arriver à affirmer un désir de cinéaste?
Mais moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma ou être cinéaste. Et puis, alors, je faisais mes études tranquillement, j'allais dire, puisque j'étais sûre que j'allais arriver. Enfin, en tout cas, j'étais pas sûre, mais je voulais arriver quelque part, peu importe le chemin. Et même, j'avais dans l'idée que la fac, c'était bien. À Paris 8, on faisait un peu de pratique. Que la culture générale, c'était bien. Études de lettres, un peu, c'était bien. Et après, j'avais l'idée quand même que de travailler dans une société de production, une jeune société de production, à faire un peu tous les postes, mais surtout les premiers postes, quoi. Enfin, je faisais même les photocopies, la popote, les courses, que sais-je.
La popote.
Ouais, je faisais la popote. J'allais, mais c'est vrai, réellement, parce que je sais pas, il fallait bien.
Ça vous permet quoi, ça, Aurélia, aujourd'hui? C'est-à-dire, quand on est réalisatrice, on a plus d'autorité en sachant quel est le métier de chacun et ce qu'il faut faire pour faire ce métier-là? On sait de quoi on parle quand on dit, quand on réunit tout le monde et quand on, entre guillemets, on donne des ordres. Je ne sais pas comment le formuler autrement.
J'en ferai pas une loi pour tout le monde, mais disons que moi j'y ai trouvé un. Enfin, je crois que c'est ma mère qui m'avait dit il faut que tu commences en balayant par terre, que tu saches tous les postes. Ouais. Je ne sais pas, ça m'a donné une assurance, moi en tout cas.
Une forme de légitimité.
Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Je trouve ça intéressant quoi, de voir toutes les places. On retombe sur le mot place. Mmh. J'ai trouvé ça intéressant. De les voir en détail, j'ai pas vu toutes les places d'ailleurs, mais à la Fémis d'ailleurs aussi, il y a un truc bien, on fait tous les postes.
À chaque niveau, on apprend, c'est ça. Hein.
Évidemment, bien sûr. Et puis après, on peut mieux. C'est l'idée aussi. On fait tous les postes à la Fémis. Alors, on les fait modestement, hein, parce que la fois où moi j'ai été entre guillemets chef opératrice à la Fémis, ça m'a fait un peu mal aux dents. Je m'en souviens encore. Ah ouais, c'était spécial. C'est vraiment le poste qui m'a complètement échappé techniquement.
Comme quoi, vous avez découvert l'importance du dire faute sur un tournage aussi.
Parfaitement, je l'écoute maintenant, le voilà, dire faute.
Ah bah c'est le taulier, hein. Sur certains films, c'est lui le vrai patron.
Oui, n'allons pas sur ce terrain trop longtemps.
Dans les années 2008-2010, Lina Koudry, vous écoutiez.
La mafia qui a pris, c'est sa mort, sa vie. Je suis mafia Kavri. Je suis mafia Kavri.
C'est le tempo, c'est le propos, c'est. Qu'est-ce qui vous plaît dans Kerry James?
C'est tout. En fait, j'écoutais ça quand je passais mes concours pour les écoles de théâtre. Et j'écoute beaucoup de rap et ce morceau me rappelait d'où je venais, je sais pas, c'est un collectif, la Mafia Kinfri, il y a une espèce de solidarité là où j'ai grandi, où pour s'en sortir, on se tient tous la main. Et je sais pas, ça me donnait beaucoup de chaleur et beaucoup de, avant de rentrer sur scène et de dire du Pasolini, moi j'écoutais la Mafia Kinfri et j'en suis fière et ça me donne beaucoup de force. Et dans les moments où j'ai des doutes et voilà, j'ai passé des mots qui me touchent au cœur et...
Et vous créez toujours, en fonction des projets, votre BO de concentration, entre guillemets? C'est-à-dire ce que vous écoutez dans une loge ou au casque, ouais, avant de...
Je la crée pas, c'est ce qu'il y a, c'est le moment présent.
Oui, enfin, Pasolini, Kerry James.
C'était comme ça, à ce moment-là, j'avais besoin d'écouter du rap parce que j'avais besoin de force pour aller sur le plateau et je me rappelle que mon entrée, elle était hyper violente. Je claquais la porte et je rentrais en criant. Et je pouvais pas écouter une musique douce avant, j'avais besoin d'un tempo
rage.
Fort et ouais. Et voilà, de chercher dans mes tripes pourquoi j'en étais là aujourd'hui.
Et comment on fait comprendre, Lina, à ses parents, quand ses parents sont journalistes, professeurs de violon, que l'école c'est pas son truc et qu'on va pas devenir avocate ou médecin comme la mère pourrait l'envisager, ou journaliste, faire Sciences Po comme son père pourrait éventuellement le prévoir?
ça a été dur, ils ont essayé par tous les moyens. Ça a été, franchement, ils ont été
méritants.
Ouais, et puis ça a été corsé parce que c'était un bras de fer. Moi, j'ai un fort caractère, eux aussi. Et entre mon père qui voulait que je fasse absolument comme lui et ma mère qui voulait que je sois médecin, c'était. Et puis j'ai arrêté de les écouter, quoi. Et j'ai pris un appartement et je suis partie. Et je suis revenue en leur disant, je suis admise. Vous vouliez une école, une grande école. Je suis admise au Théâtre National de Strasbourg, ça vous va? Le bâtiment, il est grand, il est beau.
Il y a une adresse.
Est-ce que ça vous parle ou pas? Et là, ça allait mieux. Mais il fallait que quand même je passe par une case admise à un concours.
Tamponné.
Ouais, voilà.
Ça a été le moment où ils vous ont laissé tranquille par rapport à votre métier ou il a fallu encore un peu plus, je sais pas, de reconnaissance ou vous voir au cinéma avant qu'ils se disent ok, on est rassuré pour son avenir.
Ça leur fait encore peur le cinéma parce que
c'est fragile
et non, vraiment ils avaient besoin que je
l'école.
D'une école, d'une institution, de quelque chose de reconnu, d'un truc. Dur, quoi. Il voulait que je fasse partie d'une élite et que parce que ça passait par là. La scolarité, ça a toujours été pour mon père qui vient d'un tout petit village d'Algérie et pour ma mère, ils ont dû passer par là pour. Quand on parle de transfuge de classe et de. Voilà, de
s'élever, ouais.
Et ils voulaient que ça passe par là pour.
Et pour beaucoup de parents, c'est un milieu qui fout la trouille aussi pour ses enfants.
C'est vrai. Mais pour moi aussi. Hein.
C'est vrai, vous avez peur? Vous voulez en parler?
Non, je vais pas leur rajouter ça.
Et c'est venu comment le théâtre ou la scène, le jeu?
C'est venu au lycée grâce à des professeurs extraordinaires.
Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai, oui.
Il faut le dire, ouais.
Ouais. Et on a la chance en France d'avoir. L'éducation nationale est quand même assez bien faite et moi je remercie mes professeurs, Madame Laborie et Madame Gédy, qui étaient mes deux professeurs d'histoire de l'art.
C'est joli.
Et qui m'ont donné le goût et de l'art. Je l'avais avec mon papa et ma maman, mais quand même, quand c'est devenu concret, moi dans ma vie, 5 heures par semaine et puis des sorties au musée, au théâtre. Et après, le théâtre s'est présenté à nous comme une option en plus pour le bac et ça a été une ouverture incroyable et j'y suis revenue par la suite à la fac.
Nous recevons Marie-Camille Eck. Bonjour, merci
bonjour
d'être
à tous.
Présente
bonjour.
À ce micro. La place d'une autre est le sujet du film d'Aurélia Georges, qui est notre invitée aux côtés de Lina Koudry. Et justement, vous êtes avocate au barreau de Paris. Partie essentielle de votre activité est sur l'usurpation d'identité.
On a commencé
cette émission en disant non mais aujourd'hui c'est plus possible parce que il y a Internet, il y a les réseaux, il y a les cartes d'identité et ainsi de suite. Et malheureusement c'est encore possible.
Très possible et très 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 fréquent. On a de très nombreuses usurpations d'identité en France.
Mais comment est-ce encore possible techniquement, j'ai envie de dire, malgré tous les internets, les réseaux et les cartes maintenant qui sont pas digitales,
je sais pas comment
ça, oui, c'est ça qu'on peut. Bah, merci, oui.
Alors, je pense que progressivement, ça va devenir de plus en plus difficile, mais aujourd'hui, j'ai encore des clients qui viennent me voir en me disant « j'ai fait une demande de renouvellement de titre d'identité et on m'a refusé ma demande parce que une autre personne a fait la même demande sous mon identité quelques mois auparavant ». Donc les gens se retrouvent quand même dans une situation ubuesque où quelqu'un d'autre vit sous leur identité.
Et quel est l'intérêt, pardon, de la personne d'usurper une identité ? C'est de récupérer un héritage, de récupérer un poste, un
très
job ?
Souvent, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, en fait, en France. Et du coup, l'intérêt pour eux, c'est d'obtenir des papiers, de pouvoir travailler et de pouvoir être en situation régulière sous une autre identité.
Donc le syndrome de « on m'a piqué ma carte d'identité, on m'a piqué mon passeport », il y a un véritable marché de personnes qui, avec ces papiers volés, les récupèrent.
Il y a un énorme marché, il paraît qu'on peut trouver absolument tous les papiers qu'on souhaite sur le dark web pour des sommes assez modiques.
300 euros.
C'est quoi déjà l'adresse du dark web, tu sais quoi? Dark.web.
Il y a des trucs très cool.
Et alors comment se protéger? Parce que ceux qui entendent ça évidemment se disent ça peut m'arriver en 2 secondes quoi. Vol de sac, vol de portefeuille. Comment se prémunir, se protéger?
Alors
tout ça
il faut être vigilant. Malheureusement il n'y a pas de moyen infaillible. Hein. On peut tous être victime, notamment du vol de ses papiers. Hein. C'est impossible de s'en prémunir totalement. Il y a quand même des moyens d'être vigilant. Déjà faire très très attention quand on communique ses papiers d'identité. Notamment il y a un grand classique en ce moment, c'est les fausses annonces immobilières. Sur Internet. On cherche un appartement, il y a une concurrence très rude, du coup on n'hésite pas forcément à transférer son dossier via Internet à quelqu'un qui prétend
être agent immobilier.
Oui, alors en général, c'est plutôt de particulier à particulier.
D'accord.
C'est quelqu'un qui va prétendre avoir un appartement à louer.
Bien,
et
ouais.
On va lui transmettre ses papiers, éventuellement les papiers du cotitulaire du bail, plus les papiers de la caution. Et là, c'est le jackpot. L'escroc a tous les papiers qu'il lui faut pour usurper l'identité de 3 personnes.
Et à l'inverse, on doit garder tous les actes de naissance, livret de famille et autres pour prouver sa vérité. véritable identité quand on veut retrouver sa place, justement, qui a été usurpée ?
Tout à fait. En fait, on a des cas d'usurpation d'identité où ce sont seulement des actes qui sont commis par l'usurpateur en notre nom, et on a des cas dans lesquels l'usurpateur usurpe vraiment totalement l'identité. Donc, quand quelqu'un a son identité totalement usurpée, à ce moment-là, il est dans la situation ubuesque où il doit rapporter la preuve qu'il est bien celui qui prétend être.
C'est ça.
C'est
dingue. Ouais.
Donc, c'est absurde. Hein.
C'est à lui de prouver,
et ça va jusqu'à demander aux parents, aux frères et sœurs, aux cousins de venir, de se déplacer pour attester que c'est bien le fils, le frère, l'oncle.
Si d'aventure la famille est là, si on n'est pas tout seul, si on n'est pas né à l'étranger, si on n'a pas une situation plus complexe.
Ouais. Tout à fait. Il faut fournir.
Il faut que la famille joue le jeu, c'est-à-dire, ouais, accepte de te reconnaître. Non, je sais pas qui. On savait pas comment s'en débarrasser de celui-là. Non. T'as un truc à nous dire, Alexis, sur il y a un moment de solitude ou
il
quoi?
A beaucoup souffert, Alexis, je pense.
Qu'est-ce que risque la personne qui usurpe l'identité? Parce que dans le film, on parle de peine de prison, ouais. C'est ça, et de
oui,
se retrouver à la
alors,
rue.
Alors, c'est un délit prévu par le code pénal, qui est réprimé d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Allez. Est-ce que ça suffit pas visiblement pour calmer ceux qui
font, en
tout cas.
Ce qui est terrible, c'est que dans c'est la plupart des dossiers, les usurpateurs ne sont pas retrouvés. Parce qu'il y a aussi beaucoup de facilité à usurper l'identité de quelqu'un en restant simplement derrière son ordinateur pour par exemple souscrire des crédits à la consommation.
Ah donc ça peut rapporter beaucoup plus.
Ah oui,
que
oui.
L'amende de 15 000 euros, ouais. C'est ça aussi, c'est pas dissuasif.
Ah oui, ça va.
Et
oui,
puis,
oui.
On n'a pas le temps d'en parler, il n'y a pas que cette usurpation d'identité en termes de carte d'identité, il y a aussi ceux qui font des faux comptes sur les réseaux sociaux, ou des faux comptes mails, et qui récupèrent là aussi des informations bancaires ou autres.
Ça peut aller très loin. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé, on lui reprochait d'avoir été en prison, alors que c'est l'usurpateur qui avait été en prison sous son identité. Oh. Mais il ne pouvait plus travailler parce qu'il avait besoin d'un casier judiciaire vierge. Ça peut aller très loin.
Ouais, la justice et l'incompréhension, c'est un peu aussi le sujet, la justice dont nous allons parler demain avec Karine Tulle sur avec son livre La Décision. C'est un autre côté, mais je pense notamment à ça parce que vous êtes avocate au barreau de Paris et que ça sera justement une question de juge et d'avocat demain dans cette même émission. Marie-Camille Merceek, merci d'être venue mettre à ce
une,
micro.
Une petite note d'espoir quand même, c'est que quand on fait ce qu'il faut, heureusement, on s'en sort hein, et on arrive à prouver son identité, je tiens à rassurer.
Vous voulez pas juste plomber l'ambiance?
Voilà, finissons par une note d'espoir.
On va la plomber maintenant, l'ambiance. Voici Daniel Mort.
Oh, que c'est vilain. Pour mon héros du jour, Nagui, c'est bien ça, oui. Vous voulez savoir? D'accord.
Absolument.
Alors, il aurait pu être Novak Djokovic, évidemment. Le tennisman numéro 1 mondial s'est fait virer d'Australie car non vacciné. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, au lieu de le virer comme un malpropre, on aurait pu lui demander de jouer le tournoi avec un masque FFP2. Il s'en fout, Novak, je suis persuadé qu'il peut jouer tout un match sans respirer. C'est une machine, ce mec. Tu le mets sur play, il y va. Il s'arrête que si tu le mets sur pause. C'est le Jean-Luc Mélenchon du tennis mondial. Il a la rage. Mais bon, les mangeurs de koala ont décidé autrement. Ils l'ont viré. Du coup, mon héros du jour n'est pas Novak Djokovic. Mais, on vient d'en parler, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Ah.
Pourquoi? Eh bien parce qu'hier, le leader révolutionnaire était en meeting à Nantes. Un meeting grand spectacle. 300 000 euros quand même. Un meeting immersif et olfactif. Immersif grâce à des écrans géants qui entouraient le public, un public plongé dans quatre ambiances, la culture, le numérique, l'espace et la mer. Et olfactif, car le concept promettait aussi de sentir les ambiances. Quelle idée géniale! L'odeur du numérique, fallait y penser. L'odeur de la culture, ce mec est un génie. L'odeur de l'espace, pas facile à recréer l'odeur de l'espace. Pas facile, mais ça Jean-Luc, ça lui fait pas peur. L'odeur de la mer, mélange d'embrun, d'effluves d'algues et parfums de mouettes mortes. Je pense que tous les spectateurs qui avaient fumé un petit joint avant le début du meeting ont dû connaître la meilleure expérience politique de leur vie. Ce Mélenchon est un visionnaire. Je suis persuadé que les meetings immersifs olfactifs, tout le monde va s'y mettre. Et je vois bien une candidate s'y mettre pour reviriliser son discours comme lui avait suggéré son père. Mesdames et messieurs, dimanche, ne mentez pas, le meeting immersif olfactif de Marine Le Pen. Ambiance sport de combat et commando. Sur écran géant, les chaos les plus saignants de l'histoire de la boxe. Les images les plus dures des légionnaires en mission. Le tout au milieu d'odeurs de vestiaires et de cabanes à soldats. Testostérone garantie, interdit aux chochottes. Les meetings de Marine, c'est pour les patriotes. Jean-Luc Mélenchon voit plus loin. Et c'est pour ça, Nagui, que j'en appelle.
À qui ?
Solennellement.
Mais non.
Si.
Mais non.
À Emmanuel Macron.
Laisse-le tranquille.
Monsieur le Président, vous, comme tous les autres, êtes un homme de contact, un homme de discours. Et c'est pour cela que je vous en conjure, même si ma proposition est très bizarre. Prenez Jean-Luc Mélenchon comme directeur de votre campagne présidentielle. Car si jamais ce genre de choses se reproduisait...
Parce que c'est notre projet.
Jean-Luc saura mettre en valeur vos débordements vocaux psychédéliques en balançant des odeurs de poppers et des images de trains fantômes qui rendront ivre de joie votre public déjà incandescent et toujours prêt à exploser. Vive Jean-Luc Mélenchon, vive les odeurs, vive la France.
Vive la République.
Merci Daniel.
Bonjour Tanguy Passureau. Bonjour. De quoi vas-tu parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de la fin de la civilisation et de la mort de la musique, puisque la première vidéo à avoir dépassé les 10 milliards de vues sur YouTube est le clip de Baby Shark.
Mais ouais, c'est tellement prenant dans la tête ce truc. Ben voilà. La place d'une autre, Lina Koudry, Aurélia Georges, ont la gentillesse d'être nos invités jusqu'à midi et demi. Merci Laetitia, et retour de l'information évidemment à 13h avec le journal de...
13h.
Bonjour, avec Morgane, Galinan, Alexis Le Rossignol, ouais. Tanguy Passureau, Daniel Morin. Allez. Et nos invités Lina Koudry et Aurélia Georges. Avec cette place d'une autre, la place d'une autre, troisième film d'Aurélia Georges, on l'a précisé avec la...
C'est un mercredi.
Talente, exactement. Deux dodos, et vous pourrez le voir. Voilà. Talentueuse Lina Koudry, Sabine Azéma, Maud Wheeler, Laurent.
Pff, oh là là, mais tu l'aimes pas ou quoi?
En plus, je l'aime. Alors, moi, je l'aime. Laurent Poitrenaud, à voir au cinéma et sur scène, quel acteur incroyable.
Et même dans la rue, il dégage bien.
J'avoue.
Il paraît croisé chez Gérard.
Même chez lui, sur une pizza 4 fromages, il est top.
Et Didier Brice, qu'on avait vu dans En attendant Beau Jungle sur scène.
Et pour en revenir, on ne l'a pas assez dit d'ailleurs, ce film est l'adaptation d'un roman, New Magdalena, je ne sais pas si...
New Magdalene en anglais, le titre. Parce que le titre français, j'aime moins, c'est Passion et Repentir, j'aime pas trop. C'était bon. Mais Wilkie Collins...
En chant d'éditeur, c'est
voilà,
ça.
Grand écrivain anglais, copain de Charles Dickens. Et vous avez changé beaucoup de choses. Avoir lu que le personnage de Maud Wheeler était beaucoup moins sympathique dans le roman. Ce qui pourrait justifier l'usurpation de façon un peu plus cool, en fait. Non, mais si elle n'est pas sympa, on peut lui prendre sa place.
Mais c'est vrai, je pense que dans le roman, c'est destiné aussi à dédouaner un peu plus encore le personnage de Nelly. Et les deux personnages sont plus tranchés. Il y en a une qui est vraiment très pure, et l'autre qui est complètement en fait méprisable. Bien que donc ça inverse l'idée de le côté bien-né, celle qui est bien-née et méprisable, et l'autre qu'on méprise, que la société méprise, est en fait la noble intérieurement.
Et la fin, pardon, sans le révéler, est-ce que c'est la même fin dans le roman que dans votre film ?
Alors c'est la même sur le papier, mais pas dans la mise en scène.
D'accord.
Le personnage de Maud Wheeler n'est pas traité pareil. Non,
l'issue, la manière dont tout se résout, entre guillemets, c'est dans le livre déjà.
Disons dans les grandes lignes.
Ou c'est plus optimiste chez vous que dans le livre ?
C'est plus optimiste chez moi quand même, oui.
Le personnage que vous interprétez, Lina, est corseté, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ses robes, on parlait tout à l'heure du poids, du tissu, des tenues vestimentaires, mais c'est quelque chose que l'on ressent d'ailleurs quand on se met dans un costume, d'un coup, le personnage prend encore une autre dimension, en plus de celui qu'on
complètement,
imagine.
Complètement, oui. C'est mon premier film en costume, et d'avoir mis au théâtre, j'avais eu l'occasion de mettre quelques robes quand même, mais là de jouer
quelques robes. Il faut dire que là elle est venue en pyjama, hein,
là,
on en met une à la fois, vous savez, hein.
Très détendu.
Mais là non, mais un corset, c'est vrai que tous les matins de mettre un corset, de faire toute une journée avec, on voit vraiment la différence.
Et on est comment? On est vraiment serré, on peut pas respirer, ça fait mal, on sent les baleines qui
On sent, bah oui, moi en plus on a dû le faire sur mesure parce que les baleines, ça allait pas, ça rentrait dans mes côtes, enfin bon, bref, c'était assez compliqué, et à force on a trouvé le bon corset, etc., mais ça fait mal, c'est très serré, on peut faire que des petites respirations parce que on peut pas trop bouger, quoi. Et à la fin de la journée, quand on l'enlève, on
est libéré,
on respire.
Non, c'est donc, ça. On peut sentir vraiment cette espèce de libération quand on enlevait les corsets. C'est cette image-là, elle est vraiment résumée comme ça.
Ah ouais,
on
c'est
est
vraiment
libre.
Ça. C'est vraiment ça.
Le jeu avec Sabine Azéma, que l'on embrasse au passage parce qu'elle est absolument formidable avec ce regard de bienveillance, mais en restant la grande bourgeoise, la châtelaine, celle qui décide qui a droit de j'allais dire de vie ou de mort, peut-être pas en tout cas, mais d'emploi ou de licenciement ou de chômage sur tout le monde. Elle est
oui, elle aurait pu être redoutable alors que alors qu'elle est hyper douce, bienveillante.
Et il y a un transfert qui se fait aussi entre les deux, c'est-à-dire que elle n'a pas de fille et votre personnage n'a plus sa mère. Donc
mais ça c'est la belle histoire du film. Oui, c'est toute cette transmission et
ce transfert d'amour qui se fait de l'une à l'autre. Elle est son employée, mais il y a quelque chose d'affectif de plus fort grâce à la lecture et grâce à... il y a même ce moment émouvant où elle lit du Victor Hugo et elle fond en larmes.
Ouais. Parce que consciente de son statut de d'usurpatrice, mais il y a aussi une réflexion sur la... On parle de l'amour que ces deux personnages se portent finalement, puis c'est aussi une réflexion sur la haine, ce film-là, en temps de guerre, sur la haine qu'on peut ressentir par rapport à l'ennemi. Et c'est là aussi où le personnage de Lina Koudry montre aussi qu'elle appartient dans le cœur à une autre classe, que son élévation intellectuelle est quand même supérieure. C'est ce que vous faites dire au personnage de Laurent Poitrenaud finalement dans son discours à l'église.
Protestante.
Oui, oui, oui. Le personnage de Laurent Poitrenaud interprète un pasteur, c'est un pasteur libéral de l'époque et... Parmi les protestants, ils ont pas mal discuté sur fallait-il faire la guerre ou pas, qui devait être pacifiste ou pas parmi eux. Et ce pasteur-là, la prédication est prise d'un véritable texte de pasteur de l'époque. Pour moi, avait un discours très contemporain, en fin de compte, sur comment faire quand on est agressé dans sa chair. Et c'était le cas...
Sur le pardon, sur le...
Oui, mais même parce que là, il parle du présent, c'est-à-dire il parle même pas de l'après. On est au présent de la guerre. Les Allemands arrivent avec leurs grosses bottes et vraiment écrabouillent. Il y a eu des massacres de civils. Enfin, c'est très très dur. D'ailleurs, ça a chauffé la population française aussi pour aller à la guerre. Il fallait aussi se chauffer. Mais lui, il essaye de prendre les choses sous un autre angle. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire devant la brutalité maximum ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Est-ce qu'il faut répondre, ne rien faire, etc. Et lui. Au-delà de même dire ne pas répondre, il dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit qu'il faut se concentrer sur les détails de notre vie et il faut être très très droit et il faut ne faire aucun mal, aucun tort. Mais
pas de place au mensonge.
Bien sûr.
Puisque ça aussi, c'est en filigrane de toute la trame du film, la place du mensonge.
La place chez les protestants en particulier, mais partout, je pense. Enfin, l'idée de quand on donne notre confiance à quelqu'un, on n'a pas du tout envie. C'est quelque chose qu'on donne, quoi, et sans demander les papiers. En général, on donne notre confiance. Moi, après tout, est-ce que je suis sûre que vous êtes qui vous êtes ? Je vous ai pas demandé vos papiers.
Est-ce que je suis bien
à France Inter ?
Surtout avec le masque.
Voilà.
Est-ce que je suis bien Aurélia
Georges ? Voilà. Bah, tout le monde, on se donne la confiance. Alors après, vous seriez pas content si vous appreniez que je suis la sœur jumelle ou ou quelqu'un d'autre, quoi.
Oh, vous savez, en tout cas, elle défend bien son,
son objet.
Du moment qu'on a quelqu'un jusqu'à midi et demi, nous.
Faut occuper la place, mais c'est ça qui compte.
Lina Koudry, Aurélia Georges avec nous, justement, jusqu'à midi et demi, tout de suite. Monsieur Tanguy Passureau, est-ce que c'est vrai?
Je sais pas. Il est bon celui-là, en tout cas.
Moi, je veux bien qu'on s'extasie sur Mélenchon, la tête dans la grande ours avec ses odeurs de chaussettes, mais ça concerne qui? 3000 gugus dans un meeting, donc personne si on compare à la population mondiale qui est de 7,5 milliards d'individus. Même une vidéo de Stromae en train de danser tout en s'ouvrant les veines, ce qui demande une certaine souplesse. Ça fait 15 millions de vues. Bah, c'est nul. À côté de Baby Shark, c'est rien. Alors, Baby Shark, c'est une chanson que ceux parmi vous qui ont des gosses connaissent et que ceux parmi vous qui n'ont pas de gosses n'auront pas envie d'en faire après l'avoir écouté.
C'est sûr.
C'est une vraie pub pour la contraception, ce truc. Une seule écoute et à vie, vous redirigez l'ensemble de vos spermatozoïdes vers les WC. Cette chanson, sans doute composée par Belzébuth, ferait passer Jaja d'Aya Nakamura pour du Baudelaire. Baby Shark, c'est atroce. C'est un titre pour enfants qui part du postulat que l'enfant est un con. Ce qui souvent est vrai. Avant l'âge de 19 ans, si on veut discuter avec eux, il vaut mieux aimer les Pokémon et les problèmes de réalignement des dents. En fait, les mères devraient pouvoir les garder dans leur ventre jusqu'à leur majorité. Ensuite, ils sortiraient. Leur premier mot serait « Salut maman, t'as pas du shit ?» Puis, ils se barreraient en soirée. Hein, et on se dirait au moins on a échappé à Baby Shark. Alors rapidement, Baby Shark, c'est ça. Voilà, stop. Au-delà de 5 secondes, c'est considéré comme de la torture psychologique. Donc c'est une chanson pour enfants dont les paroles, vous l'avez entendu, sont simples. Ça fait Baby Shark, doudou, 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 Baby Shark, doudou, 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 Baby Shark. En gros, ça raconte l'histoire d'un bébé requin, ces gros poissons que Dieu a créé un jour où il avait envie de déconner en se disant, si ça se trouve, il va y avoir des gens assez cons pour penser qu'avoir avec une de leurs dents en collier, c'est un bon look. Et là donc sont arrivés les surfeurs. Ensuite, la chanson se poursuit. On a Mamie Shark, la maman, Daddy Shark, le papa. Ils sont très famille traditionnelle. On sent que ces requins quelqu'un-là vont voter Pécresse. À chaque fois, c'est la même mélodie, doudou, doudou, doudou. Et il y a une chorégraphie avec les mains, on imite un requin qui mord ou un sénateur à la cantine.
C'est ça.
Hein, parce que l'axe d'ouverture de la gueule est le même. Alors, je précise que Baby Shark est une chanson sud-coréenne, comme le Gangnam Style, la danse du cheval. En 2012, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la folie. Hein, tout le monde rêvait de se taper un jockey. Pas celui à la pêche, celui qui sent le crottin. Dans un dîner, si vous aviez Obama, George Clooney et un journaliste de la chaîne Equidia, tout le monde écoutait le mec de chez Equidia. La Corée du Sud nous a donc déjà sorti la danse du cheval, la danse du requin, et à chaque fois on est un peu moins digne. Bientôt la danse du ver solitaire, hein, on rampera par terre en faisant mine de chercher Lily Rose Depp. Et là vous vous dites, mais pourquoi Tanguy, notre sugar daddy au cœur des faibles, nous parle-t-il de Baby Shark, lui qui a des références pointues, il va jusqu'à saisir 50% de ce qui est écrit dans Télépoche. Et bien parce qu'hier j'étais sur internet, j'ai cherché l'adresse de la cagnotte Litchi en soutien à Anne Hidalgo pour lui permettre de rebondir à la fin de sa campagne pour la présidentielle dans 9 jours, et là j'ai lu une alerte de France Info intitulée « Avec 10 milliards de vues, Baby Shark devient la vidéo la plus visionnée de l'histoire de YouTube. » Oui, Baby Shark est la musique la plus aimée mondialement. Ouais. C'est-à-dire que tous nos invités ici sont là à dire « Oui, la BO de ma vie, outre Stravinsky pour qui j'ai une passion qui remonte au CP, se compose aussi de titres un peu pointus de Philippe Glass, gna 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 gna, et on rentre à la maison, il fait quoi Eric Emmanuel Schmitt ? Eh ben, il danse en slip sur Baby Shark, wow, en faisant la choré comme tout le monde, parce que 10 milliards de vues, ça veut dire que tous, on adore Baby Shark. Quand je pense qu'il y a quoi 30 ans de Taratata Nagui, il n'y a pas eu une seule danse du requin.
C'est vrai.
Ah, ça, pour recevoir Raphaël, il y a du monde. Hein. Enfin, il est beau, il joue bien de la guitare, mais avec un t-shirt troué, il est sexy parce qu'on se dit qu'on va voir ses tétons. Mais c'est pas la vraie vie. Hein, la vraie vie, c'est Kevin, 5 ans, qui danse Baby Shark avec sa mémé, tous deux en train de baver, le regard torve, le cerveau vidé par les Sud-Coréens. Dire qu'on se, on se méfiait de la Corée du Nord, tu parles. Et Jong-un, ce gros nounours violé par un coiffeur visagiste, et finalement, sympa comme tout. Bon, parfois, il pète un câble, il tire un missile, mais nous, on ferait pareil si notre pays était fermé et qu'on n'avait pas de Xanax. Et en fait, le danger venait de Corée du Sud. La danse du cheval, la danse du requin, le groupe BTS, Squid Game, la série vicieuse qui a initié nos enfants à la haine de l'autre dès l'âge de 4 ans. Raison, la Corée du Sud, où livrons-lui Marlène Schiappa. Alors, 10 milliards de vues, attention, ça ne veut pas dire que chaque être humain de la planète, plus les 3 millions d'aliens qui vivent en toute discrétion parmi nous, Ariel Dombal et les autres, ont vu le clip de Baby Shark.
Hein,
je pense qu'au Yémen ou chez les Ouïghours actuellement, on danse
ça
assez peu le requin. Ouais. Il faut déjà être dans un certain confort de vie pour se dire, tiens, puisque je n'ai pas à survivre au quotidien, je vais danser en imitant le poisson. Un an, 10 milliards de vues, ça signifie juste que plein de gosses ont vu la vidéo 100 fois. Parce que les enfants sont obsessionnels. Ils peuvent faire la même chose à l'infini. Certains parents ont vu 30 fois la Reine des Neiges.
C'est clair.
Ils n'arrivaient plus à manger de carottes. Ils disent, non, c'est le nez d'Olaf, le bonhomme des neiges. Un enfant, tant que vous lui répondez pas, il vous dit, papa, 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 papa. Moi, en tant qu'adulte, si je me mets face à Morgane Cadignan et que je dis, Morgane, 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 eh ben, elle va déposer une main courante. Donc, mon conseil à Christiane Taubira est le suivant. Madame, votre lyrisme et votre amour du verbe vous honorent. Mais c'est pas avec ça que vous allez dépasser 2%. Faites une vidéo avec une danse et pour la mélodie, ça fera Taubira tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà, ça marche.
Merci.
Baby Shark.
Là, ça pourrit la journée de millions de Français.
Ça rentre tellement dans la tête.
Baby Shark.
Et c'est ça tout le long. Ça ne bouge pas. C'est toujours la même mélodie. Ça va, papy, mamie.
Et aux États-Unis, il y a des types qui étaient en prison, qui ont porté plainte parce qu'on leur a fait subir ça en torture. C'est vrai.
C'est ouais,
on leur a fait écouter ça. À fond.
Non, oui, c'est vrai. C'est Guantanamo, quoi. C'est... Ouais. Et Tanguy, je voulais juste te dire que tu étais en spectacle ce jeudi à Aulnay-sous-Bois.
Oui.
Voilà.
Bah, note.
Ah ouais, c'est chaud. On arrête.
Dans la bande originale, nos invités Aurélia Georges et Lina Koudry, elles sont au cinéma. J'ai envie de dire, Lina, vous êtes de tous les plans, mais enfin Aurélia est surtout de tous les plans puisqu'elle a réalisé. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement présente à l'image, Lina Koudry. Et contrairement à Maud Wheeler, contrairement au personnage en tout cas, Rose Juillet dans un premier temps rêve de rencontrer, de faire le bon mariage et de continuer sa progression dans la société. Or l'amour n'est pas vraiment le sujet de Nelly devenue Rose.
Non, l'amour n'est finalement le sujet de pas grand monde. En tout cas, dirais l'amour, le mariage, quoi, l'amour avec un homme, finalement, c'est très secondaire. C'est pas ce qui les occupe, c'est pas ce qui les préoccupe. Et c'était une autre manière de raconter des histoires de trois femmes, des rapports qui ne tournent pas autour de ça. Mmh. Ça, on avait bien aimé aussi avec ma scénariste Maud Ameline aller dans ce sens-là, quoi. Dans le roman, il y a une un amour naissant entre le pasteur et le personnage de Nelly, qui est plus fort. Là, nous, on en a des petites traces, des petits frémissements. On peut le voir si on veut le voir, mais c'est pas du tout premier.
Il y a même une gêne dès qu'il lui prend le bras ou touche l'épaule. On sent qu'elle est récalcitrante et qu'elle n'est pas du tout... Elle ne pense pas à ça.
C'est-à-dire que les hommes n'ont pas été toujours très positifs dans sa destinée. Enfin...
C'est ça, oui, c'est ça. Si on regarde bien, le personnage de Nelly, joué par Lina Koudry, donc n'est pas touché dans le film. Alors évidemment, sauf au début, à un moment où elle se prostitue, mais on raconte en effet que c'est quelqu'un qui ne peut plus vraiment être touché. Et j'ai économisé le geste de se toucher physiquement, de se toucher la main, le bras, le plus possible dans le film jusqu'à la fin. Parce que c'est aussi l'histoire de comment s'approche des corps. En fait.
Y compris, elle est blessée dans sa chair, même elle ne peut pas toucher ou caresser, ça la blesse, ça lui fait mal. D'autres événements, à part ce film, évidemment, qui sort ce mercredi dans le monde de la culture, à part la place d'une autre, Leïla Kadour.
On va parler d'un futur biopic hollywoodien en préparation qui concerne une actrice, une grande actrice, mais de qui s'agit-il ? Ce n'est pas Marilyn.
C'est pas Marilyn ?
Audrey.
Absolument, c'est Audrey Hepburn.
Qu'est-ce qu'elle était belle.
Le film qui sera produit par
Apple.
Donc le film sera produit par Apple.
L'été.
Il sera réalisé par Luca Guadagnino, qui a été nommé aux Oscars pour Call Me By Your Name. Ah. Et ce sera Rooney Mara dans le rôle de l'actrice de légende. Ah ouais. C'est une information qui vient de Variety.
Pourquoi tu dis évidemment ?
Bah, elle lui ressemble.
Tu voyais qu'elle pour l'incarner, Lina a eu cette même réaction aussi.
Ça
semble évident, Rooney Mara pour...
Oui, c'est vrai que...
Vin Diesel.
Oui, j'aurais pas pensé comme ça.
Lina Koudry aussi.
Lina Koudry aussi, justement. Est-ce qu'il y a des icônes, est-ce qu'il y a des envies de biopic d'entrer pour le coup dans les pas d'un personnage qui a véritablement existé et qui est une figure publique?
Dans les pas d'un personnage ou dans l'EHPAD d'un personnage?
Dans l'EHPAD aussi.
Alors, du début à la fin. Pas dans l'EHPAD. Voulez-vous rentrer dans l'EHPAD?
Non, merci. Mais...
Ça viendra.
Mais il y en a, je sais pas, là, vous avez dit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais c'est dur, un biopic. C'est très dur. Ça me fait un peu peur.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur?
Parce qu'on n'a pas le droit à l'air. Enfin, on ne peut pas inventer. On n'a pas de marge de manœuvre, finalement. On doit se coller exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, une démarche, un parler, une voix. Enfin, voilà.
Et vous êtes très caméléon parce que finalement, dans ce film-là, La Place d'une Autre, qui a lieu en 14, on pourrait aussi se dire que physiquement, on pourrait projeter aussi une autre forme. Et moi, ça ne m'a pas du tout posé question une seule seconde dans ce film. C'est là où je vois cette qualité aussi d'interprétation. Donc je me dis que vous pouvez absolument prétendre à incarner n'importe quelle femme. Et donc, est-ce qu'il y aurait comme ça, dans l'absolu, une icône, une comédienne, par exemple, ou un autre personnage qui vous intéresse, dur, même si vous ne l'incarnez pas? Un biopic sur qui? Est-ce que vous aimeriez voir un biopic sur qui?
Oh là là, c'est dur. Ouais, non, c'est pas facile, je me suis déjà posé la question.
Et vous avez jamais eu genre de poster dans la chambre ou de photo sur votre téléphone d'icône
alors,
comme
alors,
ça?
Alors, si. Alors là, ça va être très drôle. J'avais des posters de la Star Academy, moi, dans ma chambre.
Jennifer.
Voilà, je pourrais faire un biopic de Jennifer.
Bah voilà. il faut pas chercher loin, le poster, Jennifer.
Et vous, Aurélia, il y aurait des envies de biopic? Réaliser un biopic, est-ce que c'est un exercice qui vous tenterait ou...
Bah déjà, est-ce que c'est une histoire vraie ou pas?
Non, je pense pas que ce soit une histoire vraie. D'accord. Du tout. Je pense que c'est vraiment romanesque, inventé. D'ailleurs, le plaisir de la fiction aussi. Moi, ça peut me tenter comme ça un peu sur. Je crois pas que j'irai réellement. Mais quand je vois les histoires d'aviatrices du début du siècle, justement, les aviatrices des années 10, 15, 20. Alors là, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on les connaît pas très très bien, donc finalement, on pourrait aussi raconter des choses. Enfin, on se sent quand même un peu plus libre que, par exemple, si on fait le biopic de Marilyn Monroe. Là, tout le monde a l'impression d'avoir, en tout cas, vu plein de choses, lu plein de choses, des documentaires.
Ça appartient à tout le monde,
Finalement, raconter l'histoire d'une femme non pas anonyme, mais puisque ça serait un biopic, mais quelqu'un qui serait pas forcément très connu.
Et il y a un biopic qui a pas été fait. C'est un comble. C'est Alice Guy.
Sur la première femme réalisatrice,
Mais je pense que ça ne saurait tarder, Alice Guy.
Il y a une très belle BD.
Une info.
Non, j'ai pas une info, mais non, il y a un documentaire assez fouillé sur elle qui est sorti en salle, c'est un doc.
Il y a une BD.
Non, mais je suis sûre que ça. C'est après-demain, Alice Guy.
C'est après-demain, ok. Ouais.
Parlons de l'avenir, justement. Lina Koudry, vous serez prochainement à l'affiche de Ouria, de Mounia Medour. Quel est votre personnage dans ce film?
Alors, c'est l'histoire d'une danseuse. Voilà.
De la Starac.
De la Starac.
Ouais, enfin, une danseuse agressée.
C'est l'histoire d'une danseuse qui va.
Qui se retrouve à l'hôpital.
Alors, attendez, c'est la première fois que je dois pitcher ce
danseuse
film.
Danseuse de ballet.
Donc,
ballet. Déjà, on est
une danseuse de ballet. Enfin, voilà. Une danseuse de danse classique. Elle peut pas partir d'un ballet.
Victime d'une agression, elle se retrouve à l'hôpital et tous ses rêves de
elle
carrière.
Elle perd la
de
parole.
Danseuse, c'est ça.
Voilà. Et là, va s'en suivre. Des choses.
Et, c'est, et être danseuse de ballet, vous l'aviez rêvé quand vous étiez petite fille ?
Alors moi j'avais fait un an de danse classique, j'avais pas du tout apprécié ce moment. Et puis ensuite j'ai fait du jazz, du modern jazz pendant quelques années. Et là de devoir retourner au classique, ça a été bien dur, éprouvant, mais tellement jouissif parce que c'est un sport hyper complet et que ça m'a fait du bien pour moi perso. Je suis contente.
Alors, il y a un point commun dans tous vos projets, c'est que celui qui vous agresse est un ancien terroriste. Dans un autre film, Nos Frangins, de Rachid Bouchareb, vous jouez aux côtés de Reda Kateb, Samir Ghezmi et Raphaël Persona. Et là, c'est sur l'affaire Malik Oussekine, une affaire de violence policière. Et puis, de l'autre côté, le 5 octobre, vous serez au casting de Novembre, de Cédric Jiménez, avec Jean Dujardin, Jérémy Régnier. Là, c'est dans l'antiterrorisme. Donc, comme ça, on est... C'est pas du tout ça ?
C'est joyeux, hein.
Et là encore une fois, ça nous renvoie à Karine Thuil que nous recevrons demain autour du terrorisme et de l'antiterrorisme.
J'avais pas fait ce constat, c'est horrible. Mais...
Non, mais vous êtes dans The French Dispatch en ce moment aussi.
Voilà.
Wes Anderson, c'est
voilà.
Ça.
Et le biopic de Nordal Lelandais aussi.
Voilà. Mais... et surtout dans La Place d'une Autre.
Et La Place d'une Autre, bien
mais
entendu.
Ce que j'adore, c'est de voir les partenaires avec lesquels vous jouez, Raphaël Persona, Samir Ghezmi, Reda Kateb, du jardin,
des gens qu'on aime
Jérémy
pas.
Régnier que nous recevrons
jeudi,
à la fin de la semaine,
vendredi.
C'est vendredi. Ça doit être ça aussi, c'est des sparring partners, les partenaires, c'est quelque chose d'important.
C'est hyper important.
On grandit.
Ah mais oui, mais moi là je viens de vivre une expérience avec Reda qui était extraordinaire, il m'a porté, il m'a conseillé,
Reda, vous parlez de Reda Kateb, pas le chorégraphe Kateb. De la Starac.
Non, pas lui, l'autre. Non, mais c'est vrai que avec Sabine, Azema, Maud, enfin c'est il y a que ça qui nous porte en fait, hein, c'est les autres.
Et les projets d'Aurélia, Georges, qu'est-ce que
vous travaillez sur ? Franchement, c'est en défrichage. Je peux pas vous donner à manger. Là,
okay.
Non.
Vous nous tenez au courant. Alors, vous me tiendrez au courant. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr. Déjà, désolé pour toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs en devenir qui ont compris ce matin que savoir filmer ne suffisait pas. Aurélien Georges l'a dit, il faut aussi savoir faire. La popote, eh ben ouais, les amis, derrière chaque Spielberg ou Anne Fontaine se cache toujours un Cyril Lignac ou une Maïté.
Le catering, c'est très important sur
hyper important.
Film.
Désolé maintenant pour Patrick Bruel, dont le talent comme le transit a été moqué par Nagui. Allez, allez. Évidemment, et son fameux « Allez, allez, courage Patrick, détends-toi ». Oui, non, ça suffit maintenant. Désolé, enfin, pour les premiers mots d'Aurélia Georges et de Lina Koudry, qui ne sont arrivés qu'à 11h15 minutes et 40 secondes, soit 8 minutes 12 après le début du pitch de Nagui. Heureusement, la réponse a été à hauteur de la question. Allez. Non,
c'est l'autre magnéto.
C'est ça,
voilà. Comme on dit, tout est dit, les amis. À demain.
Merci beaucoup, Lina Koudry. Merci Aurélien Georges. La place d'une autre, ça sera ce mercredi au cinéma. Demain, Karine Thuil est notre invitée pour La Décision. Passez une bonne journée sur Inter.
À demain.